On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Et ce soir, effectivement, on va jouer toute la soirée puisqu'on s'intéresse aux jeux de société. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Bleu. Les jeux, comment vous jouez, quels jeux vous aimez, quels souvenirs vous en avez. Pour 79% des familles, le jeu de société reste la star incontestée. Eh bien, c'est le moment d'ouvrir les placards et les souvenirs, de nous dire quels sont vos jeux de société préférés, ceux avec lesquels vous avez joué quand vous étiez petit et avec lesquels vous jouez peut-être encore aujourd'hui avec vos enfants et même vos petits-enfants. Et puis on va parler aussi des nouveaux jeux. Peut-être que vous êtes du genre à en tester toujours de nouveaux, notamment dans des bars à jeux, dans des ludothèques, en parlant avec des copains, des amis sur internet. Et puis on va parler de votre comportement au jeu aussi. Mauvais joueur, tricheur, les jeux de société, ce qu'ils veulent dire sur nous, c'est ce soir sur France Bleu avec vos appels au 0810 055 056 et en compagnie de Catherine Ouattine qui est notre grand témoin, responsable de l'association À l'adresse du jeu. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Vous êtes tombée, je crois, toute petite dans l'univers du jeu.
Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'on jouait beaucoup en famille et puis on jouait dans la rue. C'était une époque qu'on pouvait jouer encore dans la rue. Et je n'ai jamais arrêté de jouer parce que bon, j'ai pas mal vécu aussi à l'étranger et le jeu est une langue universelle. Donc ça permet de faire des rencontres, de rencontrer d'autres. Et puis en famille, ça permet de régler des comptes de temps en temps.
Aussi. Et puis vous en avez fait votre métier, c'est le plus beau métier du monde. Vous testez, vous jouez, vous faites découvrir des jeux.
Absolument, absolument. En fait, je crée des ludothèques, des ludothèques en place, et puis des espaces de jeux aussi en plein air. Et ce qui est, quand je suis arrivée en France, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que en fait, on est classé un peu par tranche d'âge. Vous savez, hein, il y a les petits, les moyens, les grands, partout, à la crèche, à l'école, au centre de loisirs, même en famille, voilà. Et alors que...
On pourrait jouer tous ensemble.
Voilà, jouer tous ensemble, c'est quand même une manière de se connaître mieux et de vivre les émotions des autres.
Ouais, mais on va parler de tout ça avec vos jeux préférés, les jeux de société de votre enfance, les souvenirs, les jeux dont vous avez envie de nous parler, vous adorez, vous avez peut-être eu des jeux à Noël ou votre anniversaire. Il n'y a pas d'âge pour jouer, il n'y a pas d'âge pour en parler non plus. C'est pour ça qu'on vous attend sur France Bleu. Les jeux de société, c'est le thème qu'on a choisi pour vous jusqu'à 22h.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Kylie Minogue qui adore jouer à Docteur Maboul, paraît-il. Non, je sais pas. Pourquoi pas? Allez savoir. On parle des jeux de société ce soir dans On se dit tout et dans le top 10 des jeux de société qui se vendent le mieux. Je dis bien qui se vendent. Ça veut pas dire que c'est ceux qu'on préfère, mais on retrouve des dinosaures du jeu, le Monopoly, le Scrabble, la Bonne Paye, le Docteur Maboul, Trivial Poursuite, Qui est-ce, Cluedo et Triomino. C'est assez classique, mais peut-être que vous n'êtes pas accro à ces jeux-là et que vous adorez tester de nouveaux jeux différents. Vous jouez avec vos enfants ou entre adultes dans des bars à jeux, des associations de jeux, des ludothèques. Vous aimez les jeux de stratégie ou de plateau, les jeux qui font réfléchir ou qui vous font exploser de rire. Êtes-vous tricheur ou bon joueur? On en parle ce soir sur France Bleu et surtout on vous attend pour nous parler de vos jeux préférés au 0810 055 056 et puis les jeux de société de votre enfance également, ceux que vous avez encore gardés avec vraiment l'emballage d'origine, hein, le packaging d'origine. C'est vrai que les marques évoluent et gardent les règles du jeu, mais voilà, les plateaux changent un petit peu. Notre grand témoin ce soir, elle a fait de sa vie un jeu, c'est Catherine Ouattine, responsable de l'association À l'adresse du jeu. Dans le mot jeu de société, il y a le mot société. Alors c'est vrai qu'on joue en société, mais ça en dit aussi beaucoup sur la société actuelle.
Absolument. Pendant longtemps, enfin toute une période, on a pensé que, enfin, on jouait un petit peu moins aux jeux de société parce que le jeu vidéo avait pris une place importante, et puis le jeu sportif et là, depuis quelques années, il y a un renouveau du jeu de société.
Comment on l'explique d'ailleurs? Est-ce qu'on a du recul pour
oui,
expliquer ça?
Je pense que souvent, le jouer est considéré comme une perte de temps. Enfin, c'est réservé aux petits enfants. Et alors qu'on joue toute sa vie, nous sommes tous des jouants. Si nous ne jouons pas, nous mourons parce que le jeu est important. C'est une façon de prendre la distance par rapport à la réalité. Et donc, les joueurs de jeux vidéo se sont mis à jouer aux jeux de société parce qu'ils se sont dit, bah, on passe du temps à jouer aux jeux vidéo. Et nous n'avons pas l'impression de perdre notre temps. Alors donc, voilà.
Il y a des similitudes entre les jeux vidéo et les nouveaux jeux de société d'aujourd'hui ?
Oui, c'est très intéressant. Il y a des jeux de société qui sont inspirés du jeu vidéo et vice-versa. Et c'est très intéressant de voir cet aller-retour. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que le jeu de société a comme ça eu un renouveau. C'est-à-dire que on a continué à jouer aux jeux classiques, mais maintenant il y a vraiment des gamers hein, qui sont à l'affût du dernier jeu créé. Et ce qu'il faut dire, c'est que les grands principes de jeu sont à peu près toujours les mêmes. Et voilà, moi je dirais aux aficionados du Monopoly qu'il y a des jeux de parcours et des jeux comme ça d'argent, de gains, etc. qui se sont, ça s'est vraiment renouvelé.
Oui, il y a beaucoup de jeux où il faut lancer des dés et arriver d'un point A à un point B,
d'un point à un autre, et puis des petits jeux de gestion voilà, où il faut gagner des terrains ou et puis nourrir aussi, c'est amusant, il faut nourrir, par exemple vous achetez des champs, ben vous devez nourrir les paysans, voilà, c'est vraiment on peut dire que ça suit en fait la société suit la vie.
Mais comment on explique que des jeux, je parlais hein, du Monopoly, la Bonne Paye, le Scrabble, le Trivial Pursuit, le Qui Est-ce, comment ça se fait que ces jeux sont toujours sur le devant de la scène? Parce qu'il y a tellement de jeux qui sont arrivés, mais eux, ils résistent quand même.
Parce que le jeu, c'est de l'ordre de la transmission orale. C'est très difficile, quand vous êtes en famille, de lire une règle de jeu, de la comprendre, et en même temps, de garder vos joueurs autour d'une table.
On a envie de jouer tout de suite.
Il faut avoir les nouveaux jeux, par exemple, les ludothécaires doivent les assimiler, doivent y avoir joué plusieurs fois pour les transmettre sans avoir à lire la règle. Eh bien, en famille, voilà, c'est la transmission orale qui se fait de génération en génération.
Comme on a joué au Monopoly, on est capable d'expliquer ce qu'est le Monopoly.
Absolument.
Voilà. Venez nous rejoindre, venez nous raconter quels sont les jeux que vous aimez, les jeux de société. Vous n'allez pas me dire que vous ne jouez pas, je ne vous crois pas. Une seule seconde, vous jouez en famille, vous jouez entre amis, vous allez dans des bars à jeux, des ludothèques, vous avez découvert des nouveaux jeux ou alors vous êtes plutôt dans la tradition, hein, les jeux dont on vient de parler. 0810 055 056. Si vous ne venez pas, je vous préviens, je fais la tête et je fais exprès de tout perdre. Ouais, je vous le dis moi.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Les jeux de société sont plébiscités par 79% des familles, loin devant les jeux de cartes, 66%, et les jeux vidéo, 60%. Ça tombe bien parce qu'on parle en effet ce soir des jeux de société, les grands classiques bien sûr, Monopoly, Scrabble, Trivial Pursuit, qui sont dans le top 3, mais aussi des jeux peut-être un peu moins connus que vous avez découverts en ludothèque, chez des amis, pendant des salons du jeu, à l'étranger, sur les marchés. Vous êtes plutôt jeu de plateau ou jeu de cartes, jeu de réflexion, de stratégie, de lettres, de chiffres, d'adresses. Vraiment tout est possible ce soir, on se dit tout sur les jeux de société au 0810 055 056. Avec une spécialiste des jeux, elle a grandi dedans, elle en a fait son métier. Catherine Wattin, responsable de l'association À l'adresse du jeu, est notre grand témoin. Et nous sommes chez Gilles pour démarrer cette émission à Aix-en-Provence. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Vous êtes ce qu'on appelle un très gros joueur.
Enfin, moi je me définis comme ça parce qu'effectivement, étant... j'ai 48 ans et depuis que j'ai, je dirais 10 ans, je joue aux jeux de société. J'en ai fait moi aussi mon métier. Puisqu'aujourd'hui, je vends des jeux dans les entreprises, qu'on appelle des serious games.
Très bien.
Mais je peux pas passer une journée sans jouer, effectivement. Et j'adore en particulier les jeux de collaboration, c'est-à-dire des jeux où on joue pas l'un contre l'autre, mais contre le jeu lui-même. Et aujourd'hui, c'est
développé. Ah, on se met à plusieurs contre le jeu, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Et là, l'idée, c'est vraiment d'arriver ensemble à faire quelque chose. Et bon, il y a une dizaine d'années, c'était des jeux un petit peu... anecdotique, puis aujourd'hui, ça s'est vraiment développé avec une pathologie, entre guillemets, c'est que il y a sur le marché aujourd'hui une offre absolument pléthorique. Je dirais qu'il y a un jeu bon toutes les semaines qui sort, alors que bon, il y a quelques années, c'était un tous les mois, on arrivait à peu près à suivre. Aujourd'hui, le joueur qui débute, à mon avis, il va être très rapidement débordé par l'offre.
Mais tant mieux, enfin, j'ai envie de dire tant mieux pour les développeurs de jeux, tant mieux pour les joueurs. Après, au niveau budget, c'est peut-être plus compliqué.
Alors, en Allemagne, le budget, parce que l'Allemagne est quand même le pays de base du jeu, je pense, hein, du jeu de société. Beaucoup de thématiques, de mécanismes sont empruntés aux joueurs, aux jeux allemands. En Allemagne, le jeu est beaucoup moins cher qu'en France. Ça, c'est quand même, c'est quelque chose de notable. D'ailleurs, moi, je les achète souvent là-bas. Bon, en France, il y a un marché où allez, c'est 20-30% plus cher, très facilement. Quoi.
On va revenir, Catherine Watine, sur les jeux de collaboration dont parle Gilles. J'aime bien l'esprit de se dire on joue ensemble contre le jeu et pas les uns contre les autres.
Oui, ça se développe énormément. On a appelé ça jeu de coopération. Maintenant, c'est jeu de collaboration. Et c'est un type de jeu. Ce n'est pas l'unique parce que on est très heureux quand on est entre amis d'avoir un challenge comme ça contre le jeu lui-même, mais contre un autre hein, qui n'est pas. Mais les gros joueurs l'apprécient énormément. Mais le jeu aussi a une autre fonction, c'est-à-dire d'arriver à se confronter à l'autre, à avoir un adversaire. Et c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des types de jeux différents. Et justement la production, c'est vrai qu'il y a une production peut-être trop importante parce qu'on n'a pas le temps de s'installer dans l'atmosphère d'un jeu qui en paraît un autre. Et quand on est gamer, eh bien, on a envie toujours de toujours découvrir, de tester la nouveauté. Mais c'est quand même cette culture du jeu qui s'installe là de nouveau parce que on a été très joueur à une époque et maintenant on retrouve cette communauté de joueurs. Alors je voudrais apporter comme ça un élément. Les jeux en Allemagne est moins cher, mais la France, nous sommes très très sensibles à l'esthétique. Et donc les boîtes de jeux sont peut-être plus belles qu'en Allemagne et que partout ailleurs. Et il y a par exemple quand vous allez des manifestations à l'étranger, on parle de la French Touch. Et la French Touch, c'est il y a des illustrateurs qui sont des véritables artistes qui participent à...
Ça fait le jeu, ça fait partie du jeu.
Voilà.
Et Gilles, vous nous avez dit que c'était votre métier aujourd'hui et que vous vendez des jeux pour les sociétés. Comment ça se passe? C'est ça, j'ai pas bien compris?
Je pense qu'au travers du jeu, on peut apprendre énormément de choses. À titre perso, sur des jeux d'histoire, par exemple, j'ai développé une culture historique que j'aurais jamais développée à l'école sur des savoirs comme ça dispensés de façon purement didactique. Et je crois qu'il y a un potentiel émotionnel très fort qui fait qu'on développe nos capacités de mémoire, des capacités cognitives. Et je me suis dit un jour, pourquoi pas faire des séminaires management, par exemple, autour de jeux de gestion d'équipe. Et puis voilà, l'idée est venue et ça marche.
Et ça marche bien, ça permet de ressouder les équipes, de voir les forces et les faiblesses des groupes.
Ouais. Ce qu'on pourrait faire par un simple PowerPoint, on le fait par l'expérience du jeu. Et je crois vraiment à ce potentiel-là du ludique et de l'apprentissage.
Genre dans une société où il y a des tensions, vous conseillez quoi comme jeu pour voir un peu où on en est dans l'équipe?
Je ne vais pas faire de la pub pour ma structure, mais voilà. Et par contre, à mon avis, il faut créer des jeux adaptés à l'entreprise et pas forcément des jeux du marché qui, eux, sont
adaptés
ciblés
forcément
sur du public privé. Voilà.
Oh, ça dépend. On pourrait apaiser des tensions, Catherine, avec des jeux qu'on connaît déjà.
Mais les serious games, c'est une démarche très particulière. Moi, je dirais que c'est un peu différent. Les serious games sont, j'appelle pas ça du jeu. En fait, c'est de la technique ludique afin d'apprentissage, hein, pour transmettre de la connaissance. Voilà. Le jeu, ça a quelque
ça
chose de complètement gratuit. Hein. C'est quelque chose de complètement gratuit. Et il y a un auteur derrière un jeu. Et donc, qui a dicté sa règle, et on suit la règle de ce joueur. Le Serious Game, comme vous le disiez, Gilles, ça, c'est une adaptation pour un projet précis. Et donc, moi, je fais un peu la différence entre le jeu qu'on découvre, qui est un peu une surprise de découverte, et un Serious Game qui est une technique ludique au service d'un projet précis.
Enfin bon, si ça peut aider certains managers à mieux manager, moi donnons-leur des jeux, allons-y. Gilles, merci beaucoup d'être venu témoigner ce soir sur France Bleu et on va continuer de parler des jeux de société au 0810 055 056. Racontez-nous un petit peu quels sont les jeux de société que vous adorez, ceux de votre enfance, ceux que vous avez transmis peut-être aussi avec vos enfants, vos petits-enfants. Et puis si vous êtes un accro des jeux, racontez-nous comment vous faites pour assouvir cette passion, cette curiosité. Est-ce que vous achetez? Est-ce que vous louez? Est-ce qu'on vous prête des jeux? Est-ce que vous allez dans des bars à jeux, dans des associations? Venez en parler tranquillement. On joue tous ensemble jusqu'à 22h dans On se dit tout au 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Selon un sondage Opinionway, 40% des Français citent le jeu de société en tête de leurs loisirs ludiques. La France est même le premier marché d'Europe avec, en 2014, ça date un petit peu, mais 20 millions de boîtes de jeux vendues, principalement des jeux de plateau comme le Monopoly. Peut-être que pour Noël ou votre anniversaire, vous avez reçu un jeu de société. Eh bien, c'est le moment d'en parler des vieux jeux qui marchent toujours, mais aussi les petits derniers sur le marché. Les jeux qui vous rappellent des souvenirs, des jeux d'avenir, des jeux que vous avez inventé même, allons-y, s'il y a des concepteurs, des créateurs de jeux de société. On en parle ce soir au 0810 055 056 avec la ludologue Catherine Wattine, responsable de l'association À l'adresse du jeu. Et c'est Brigitte maintenant qui est avec nous depuis Rouen. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir et merci beaucoup.
Vous aimez les jeux de société prototypes, c'est-à-dire qui ne sont pas sur le marché?
Ils sont pas encore sur le marché. Eh bien, j'ai découvert cela il y a peu de temps. Donc, j'ai eu l'occasion l'année dernière, par exemple, d'assister à un festival. Et notamment en Normandie, c'était le festival des fous du jeu l'année dernière. Et j'ai découvert le monde du prototype. Et effectivement, eh bien, il y a beaucoup de potentiel dans des jeux qui pourraient potentiellement exister. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, comme vous et moi, qui ont un degré de créativité et qui ont décidé de créer un jeu. Et un jeu qui a une thématique très intéressante. Et par exemple, l'année dernière, j'avais découvert un jeu qui s'appelait Samsara. Ça parlait sur le concept de la réincarnation. C'est assez drôle de parler comme ça. Mais c'était particulièrement intéressant. Je suis donc, je suis une femme de 32 ans. C'est vrai que j'ai joué quand j'étais jeune. Maintenant, je joue à des jeux stratégiques plutôt pour des adultes. Et effectivement, eh bien, c'est une découverte. Mais il y a plein d'autres jeux qui sont méconnus et qui pourtant, les festivals nous permettent de découvrir ce monde.
Et Catherine Wattine, attendez, je vous coupe Brigitte pour savoir un petit peu, Catherine Wattine, ça sert à ça, les festivals du jeu, c'est à tester en avant-première avant de les mettre sur le marché?
Absolument, les auteurs et éditeurs vraiment apprécient beaucoup les festivals parce que ça leur permet de tester leurs prototypes auprès du grand public.
De les corriger peut-être aussi.
Voilà, absolument.
Parfois. Comme les jeux vidéo, un peu.
Absolument.
Hein. Et alors Brigitte, au-delà de ces jeux de société prototypes, pas encore sur le marché. Vous aimez quel type de jeu, vous? Quel jeu de société? Vous êtes attirée par quel style de jeu?
Eh bien, moi, je suis très attirée par tout ce qui est jeu stratégique. J'avoue que j'adore, comme vous disiez dans l'émission, peut-être tricher. Je dirais pas tricher, j'aime le concept du metagame, c'est-à-dire sortir en dehors des concepts des règles.
On a le droit de faire ça?
Si on a l'esprit bien tordu, peut-être comme le mien, oui. Donc, il y a un jeu que j'apprécie en particulier, qui prototype, qui s'appelle The First Spine. En français, c'est l'épine primordiale. C'est un jeu qui n'est pas encore commercialisé et qui est un peu un mix, par exemple. Il y a un mix de jeux de cartes à collectionner et de plateaux. L'objectif, c'est de poutrer son ennemi et de diminuer ses points de vie à zéro. Donc pour cela, on joue le rôle d'un magicien qui va placer des cartes, créatures et artefacts sur le plateau de jeu, et il va les faire avancer de manière stratégique sur le plateau pour poutrer donc son adversaire. On peut jouer des sortilèges pour jouer des effets, et ça le raffole, parce qu'il y a moyen de pouvoir faire un combo. On peut le jouer de manière accessible avec les enfants, et surtout de manière un peu tordue pour les gens qui aiment bien la subtilité du détail. Eh bien, ça, j'aime bien.
Mais Brigitte, si le jeu n'est pas commercialisé, comment vous faites pour jouer? C'est-à-dire que vous avez pu l'acheter quand même?
Eh bien, actuellement, par exemple, il y a des sites sur Internet, je pense à Clickpack, où on peut voir ce genre de jeu. Les jeux prototypes, on peut télécharger les versions PNP, donc comme ils appellent en anglais le print and play. Ça nous permet de pouvoir les imprimer, les versions donc, qui sont gratuites, et on peut les découper.
C'est génial.
On peut les essayer à la maison. Et donc, si on trouve, par exemple, en tant que joueur, testeur, des conseils ou des remarques, eh bien, il y a toujours le lien où on peut avoir un contact avec le créateur pour vous donner donc un retour. Et ça, c'est très enrichissant aussi.
C'est incroyable, Catherine, aujourd'hui, le monde du jeu de société, entre le réel, le virtuel, l'échange, le gratuit, la collaboration.
C'est ça, mais je vois que, Brigitte, vous êtes une vraie joueuse. C'est-à-dire que le vrai joueur, il cherche la créativité. Hein. C'est un art. Hein. C'est l'art du jeu. Et en fait, on a besoin de se sentir aussi. On est un peu créatif quand on découvre soi-même un jeu. On participe un peu à sa créativité. Et c'est vrai que le site de Trick Track est un site très intéressant pour découvrir en live comme ça les jeux. Et
j'aime beaucoup moi, l'idée du créateur qui dit bon, je vous donne la possibilité d'imprimer les cartes, d'imprimer le jeu, de tester, de jouer. Oui. Enfin, c'est une façon de partager aussi.
Absolument.
Qui est vraiment
génial. Là, on retrouve vraiment cette liberté et cette créativité et cette gratuité quelque part qui est le vrai cœur du jeu. En fait.
Alors bien sûr, il faut quand même de l'argent pour développer un jeu à un moment donné. Est-ce que Brigitte, ça vous est déjà arrivé, par exemple, de participer à une campagne de financement pour un jeu que vous aimiez bien ?
Eh bien oui. Par exemple, là, c'était une petite découverte il y a peu de temps. Donc, il y a un jeu qui se trouve en Kickstarter, par exemple, et donc j'espère qu'il arrivera à son choix. C'est-à-dire qu'il y a certains créateurs qui veulent s'autofinancer. Donc, qui lance sur Ulule ou Kickstarter des jeux. Donc, je prends un exemple qui est en cours et qui m'a attiré l'attention. C'est Exeges. Et c'est un jeu qui crée d'autres jeux. Assez intéressant, le concept. Donc, ça fait envoler l'imagination. Pour une soirée, je trouvais ça pas mal. Donc, bon, c'est un petit montant. C'est des petites quantités qui se font. Donc, si on arrive au moment de cette financement participatif, on peut permettre donc à un jeu qui n'est pas encore commercialisé d'exister et donc de au moins avoir un tirage pour un jeu qui est extraordinaire, ou en tout cas qu'on n'aura pas partout.
On rappelle, hein, le financement participatif, c'est le fait de donner de l'argent pour faire en sorte qu'un projet puisse voir le jour. Et quand il y a plein de personnes qui participent, on peut arriver jusqu'au bout du projet. Brigitte, merci beaucoup pour votre témoignage très intéressant sur les jeux de société prototypes, notamment. Et s'il y a des créateurs de jeux qui veulent nous rejoindre ce soir, n'hésitez pas. 0810 055 056. Mais faut pas que ça vous fasse peur. Si vous êtes plutôt classique, hein, sur les grands jeux traditionnels, on a envie d'en parler aussi. C'est souvent avec plein de souvenirs, plein d'émotions qu'on évoque les premiers jeux de société en famille, qu'on évoque les grands moments de rigolade aussi. Dites-nous quels sont les jeux comme ça que vous adorez, les jeux que vous avez encore aujourd'hui, les jeux auxquels vous jouez avec vos enfants, vos petits-enfants. Et puis si vous êtes vraiment dans la découverte sans arrêt de nouveaux jeux, là aussi, venez prendre la parole. Les jeux de société, on en parle pendant 2 heures, c'est quand même pas rien. 0810 055 056, à tout de suite.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Il y a combien de jeux de société chez vous ? 4, les grands classiques ? Une dizaine, une vingtaine, beaucoup plus. Ce soir, on parle des jeux de société, les grands classiques, les petits derniers, ceux que vous adorez découvrir, ceux qui vous mettent en rage, ceux qui vous font piquer des crises de nerfs ou des crises de rire. Et puis racontez-nous aussi des histoires de jeux, des anecdotes, votre beau-frère tricheur, votre mari qui gagne toujours et vous qui avez failli vous étouffer de rire à cause d'un jeu. Les jeux de société, c'est notre thème ce soir dans On se dit tout jusqu'à 22h avec vos appels et vos témoignages au 0810 055 056. Et c'est Catherine Watine, fan de jeux depuis toute petite, aujourd'hui ludologue et responsable de l'association À l'adresse du jeu, qui est notre grand témoin. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Vous êtes à Valence et vous voulez nous parler des relations entre joueurs. C'est pas toujours facile de jouer entre copains.
C'est ça. Alors déjà, le principe des bonnes vacances entre copains, c'est qu'on sait jamais vraiment trop quel temps il va faire. Donc si jamais il pleut tout le temps, on est condamné à rester dans un gîte. Donc on prend les devants en prenant quelques jeux de société. Et c'est là que ça se complique en fait, quand il pleut vraiment. C'est là que ça se complique. Parce que on s'est presque fâché quand même avec des copains, parce que pour eux, le jeu c'est très sérieux. Mais c'est vraiment...
Mais bien sûr que c'est sérieux, Fabien.
Résultat, par exemple, on ne parle pas pendant le rami ou la belote. Ça, on ne parle pas. on ne peut pas recevoir un coup de fil, on ne peut pas avoir envie d'aller se faire un petit verre de jus d'orange ou quoi que ce soit d'autre. Non, non, quand on joue, on joue. Et il y en a qui me font la gueule maintenant parce qu'un jour, on est parti en vrille pendant une partie de Rami, que non, évidemment qu'on a perdu. Le Rami, ça se joue tout seul, mais du coup, j'en ai fait perdre un, soi-disant, parce que j'étais très dissipé. Ok, bon, d'accord.
Ah, c'est dingue. Ah ouais.
Aujourd'hui, j'ai le droit à la tronche. Bon, heureusement, c'est un ami d'habile. Résultat, on se voit pas très souvent et c'est pas plus mal comme ça. Mais par contre, les copains, les vrais copains, on pousse le vice à se retrouver de temps en temps. Alors moi, j'aime bien aller sur Paris régulièrement. Il y a beaucoup d'escape games sur Paris. Il y en a maintenant pas mal aussi dans notre secteur autour de Valence.
Les escape games, faut expliquer, Fabien, pour ceux qui connaissent pas, c'est des pièces où il faut sortir grâce à des énigmes, un peu comme un jeu, un grand jeu.
Exactement, c'est un peu comme Fort Boyard, sauf qu'au lieu de faire une seule et unique épreuve et d'avoir une minute ou deux minutes, on a à peu près une heure. Il y a des énigmes de base et donc il faut les résoudre les unes après les autres. C'est comme les énigmes à tiroir, vous savez.
Fabien ! Non, il n'y a pas le perfora qui vous appelle. Fabien !
Non, il n'y a pas ça. En revanche, évidemment, si on est vraiment trop nul, on a les responsables des jeux, les animateurs des jeux qui sont dans une autre pièce et qui peuvent nous surveiller et qui nous donnent quelques petits indices. Mais là où c'est intéressant, mais vraiment très intéressant, c'est qu'ici à Valence, on a par exemple un escape game historique. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui, je ne vais pas tout vous raconter, mais un personnage qui fait un petit peu l'histoire de la région. Et en jouant, en allant chercher les indices, on fait la démarche d'en savoir plus sur ce personnage. Et donc le jeu où on a la stimulation de jouer en équipe, déjà, parce que c'est hyper important, chacun a son rôle, chacun fait son petit truc dans son coin, après on met tout en commun. Mais le principe, c'est quand même de réunir des informations, et donc on en apprend sur ce personnage. Et ça marche aussi, par exemple, avec le fantôme de l'opéra. On apprend des choses sur les opéras, l'opéra de Paris, par exemple.
Fabien, j'aimerais, avant qu'on reparle de l'escape game, j'aimerais bien revenir avec notre grand témoin Catherine Watine sur le comportement. Fabien nous disait, c'est très sérieux quand on joue avec mes copains, on n'a pas le droit de parler. Vous comprenez que ça puisse se passer comme ça parfois ?
Ah ben oui, parce que surtout il parle des jeux de cartes et des jeux de cartes classiques apparemment. C'est un engagement, hein, se lancer dans une partie de jeu, c'est un véritable engagement. Et puis on veut gagner à tout prix. Alors il y a ceux qui jouent pour gagner, et puis ceux qui jouent pour jouer, pour l'ambiance. Alors vous avez raison de vous être tourné vers les escape games parce que c'est vraiment...
Est-ce que c'est un jeu de société, l'escape game?
Ah bah oui, c'est une sorte de jeu de société. Il faut résoudre des énigmes. C'est comme au Cluedo, par exemple. Hein. Voilà, Cluedo était un jeu en boîte. Et d'ailleurs, il y a des escape games qui peuvent être des escape rooms, mais aussi des escapes en boîte, puisque au festival du jeu de Cannes, on a primé un jeu qui est Unlock, qui est un escape game en boîte.
Et puis au moins, Fabien, pendant l'escape game, vous avez le droit de parler.
Ah bah, il vaut mieux communiquer, c'est sûr. Mais alors justement, vous parlez des escape games en boîte où le principe c'est de sortir. Effectivement, ça existe aussi en version numérique. Alors là, moi j'ai un énorme coup de cœur. Je sais qu'il faut pas faire de pub, mais là je m'en fiche un peu parce qu'il est tellement bien ce jeu. Ça s'appelle The Room, qu'on peut jouer sur des tablettes. L'univers est graphique et sonore est magnifique. Et le principe, là, c'est pas de sortir de la boîte, c'est de réussir à percer le secret de la boîte en rentrant. Et donc, en fait, il faut rentrer de plus en plus dans cette boîte. Et c'est magnifique, en fait, aujourd'hui, ce qu'on peut faire. Et ce concept-là, il est pas infini pour l'instant, mais il se décline de tellement de façons. Et là, pour le coup, autant l'escape game dans la vraie vie, dans les vraies pièces, c'est vraiment un jeu de société, autant là, c'est un petit plaisir solitaire qu'on peut se faire.
Mais c'est fou, les transitions et les liens entre le jeu de société classique, l'escape game, les jeux sur téléphone, sur tablette. Enfin, vraiment, il y a une créativité incroyable. Et puis surtout, il y a des connexions qui se font, Catherine.
Oui, parce que l'origine de l'escape game est l'escape room dont vous parlez. Hein, c'est des jeux vidéo, hein, c'est ça. Et puis, c'est entre le jeu vidéo et le jeu de rôle. Voilà, il y a un mix de ces deux techniques de jeu. Mais vous savez, il y a beaucoup de jeux d'ambiance où on rit énormément. Par exemple, il y a un petit jeu de société qui s'appelle Mytho, où il faut tricher pour gagner.
Ah, j'aime bien ça.
Et là, je peux vous dire que c'est des éclats de rire. Et ceux qui ne parlent pas et qui ne rient pas doivent sortir de la table.
Ouais, ouais, ouais. Et Fabien, alors là, je vois que vous êtes très connecté, vous êtes très au fait de ce qui se passe aujourd'hui en termes de jeux et notamment sur les Escape Game, mais est-ce que vous avez encore les jeux de quand vous étiez petit? Est-ce que vous avez des bons souvenirs avec ces jeux-là?
Ah ouais, bah vous parliez de Kylie Minogue tout à l'heure, qui visiblement était fan de Dr Maboul, et ben j'ai appris ça parce que je ne savais
non,
pas.
Non, non, c'était une blague, hein, j'ai dit ça en rigolant, Fabien. Oui.
Ben pour le coup, moi j'en avais vraiment un. Et puis ouais, les jeux de plateau, les jeux d'adresse et choses comme ça. Mais ça aussi, les jeux aujourd'hui, grâce au numérique, on retrouve les jeux de plateau. Par exemple, moi j'ai un Uno dans mon téléphone, comme ça quand je prends le train, c'est bien, ça passe tout seul. J'ai un Monopoly aussi, mais bon, c'est quand même beaucoup plus sympa sur le plateau. Mais là, au moins, on retrouve quand même ces petits plaisirs qu'on a toujours connus. Et puis aussi, il y a des jeux de lettres, par exemple, des jeux où il faut marquer un maximum de points. Par exemple, Ruzzle, où là, je joue avec mes amis en ligne.
Quoi, Ruzzle ?
On n'est pas au même endroit. Ça s'appelle Ruzzle, R-U-Z-L-E. Mais à celui-là, je suis nul, donc je vous inviterai pas, Vanessa, parce que je suis sûr que vous allez me battre à tous les coups, parce que je suis le nul de chez nul. Je me fais éclater à tous les coups.
Au moins, comme ça, je pourrais gagner, parce que moi, je déteste perdre, donc c'est très bien, tout le monde s'y retrouve.
J'aime bien gagner aussi de temps en temps, donc bon.
Ah mais c'est marrant, c'est quoi, c'est le Scrabble un peu remodifié, Catherine?
Oui, il y a beaucoup de... Enfin, c'est vrai que le Scrabble est indétrônable, hein, voilà. Mais il y a des jeux de lettres qui sont très chouettes, qui sont plus faciles à jouer rapidement. Et là, par exemple, moi, je vous conseille un jeu qui s'appelle Mot pour mot, qui vient de sortir et qui ce que je trouve extraordinaire, c'est cette créativité. À partir de lettres, on arrive à créer des jeux à l'infini. Et tous ces jeux qui sortent, il y en a. On parlait d'un par semaine. C'est plus même
ça vient de sortir, ça, mot pour mot.
Ouais. C'est un jeu exceptionnel et voilà, on joue par équipe.
C'est quoi le but alors exactement?
Alors vous avez un plateau de jeu, vous avez une ligne centrale et vous avez un certain nombre de lettres sur cette ligne centrale et vous tirez une carte et vous devez trouver un mot avec un certain nombre de lettres sur un sujet et c'est celui qui aura dit
comme le mot croisé,
le premier le mot le plus rapide qui tirera les lettres vers son camp et donc voilà, c'est celui qui aura
bon, on va tester ça, Fabien, mot pour mot.
Ça me semble être assez rigolo. Oui.
Ah bah c'est rigolo parce que ça se joue en équipe. J'ai l'impression que vous aimez bien. Enfin, à part le fait que vous jouez seul sur
sur son téléphone,
sur votre téléphone. Ouais. Là, je pense que vous aimez bien les jeux d'équipe comme ça. Là, donc
voilà, les deux. Enfin, moi, je trouve vraiment. Enfin, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'en équipe, soit vraiment on se paye des barres de rire et c'est chouette. Soit il y a vraiment un esprit d'équipe comme dans l'escape game.
Voilà.
Il y a un esprit d'équipe vraiment de cohérence, de cap qu'on tient tous en commun. Et puis après, en équipe, il y a aussi les jeux un peu perso. Là, il y a celui-là qui me vient, le fameux jeu du post-it où on se colle, où on colle plutôt.
Oh, c'est génial, ça, j'adore.
Ça, c'est excellent. Ça. Ouais. C'est excellent.
Quand ça dure trop longtemps, c'est pas rigolo.
Et c'est vrai que moi, les jeux auxquels vous faisiez référence tout à l'heure, par exemple, les grands jeux comme les échecs, les jeux de cartes sérieux, etc., nous, on les appelle maintenant les sports de l'esprit. C'est le sport de l'esprit, parce que vraiment, il faut réfléchir. Et sport de l'esprit, voilà, on voit bien que l'atmosphère est sérieuse. Et pour moi, le jeu, c'est davantage cette façon de partager des émotions ensemble. Et voilà. Bon.
Fabien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu. Et très belle soirée de jeu, tout seul ou à plusieurs d'ailleurs. À bientôt, Fabien.
Oui, merci beaucoup.
Au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Quand il fait froid, quand il pleut, justement, qu'on ne peut pas sortir dehors, on joue aux jeux de société. Mais heureusement, on n'attend pas qu'il pleuve pour jouer. Les grands classiques indémodables, les nouveaux jeux, on en parle ce soir. Les jeux ont changé, les stratégies de jeu aussi. Peut-être que vous êtes adepte du Time's Up, du Shabada, des loups-garous, ça rigole, on n'est pas obligé d'être calé en culture générale. Quels sont sont vos jeux de société préférés, et particulièrement dans la nouvelle génération de jeux? Mais on n'a pratiquement pas parlé des anciens jeux, hein, ceux de votre enfance. Alors venez nous rejoindre. Quel joueur êtes-vous? Est-ce que vous avez des anecdotes de jeux à nous raconter? 0810 055 056. On se dit tout avec la ludologue Catherine Watine, qui est notre grand témoin. Et nous partons à Strasbourg maintenant, chez Denis. Bonsoir Denis.
Bonsoir Vanessa, bonsoir tout le monde.
Vous allez nous parler d'un jeu imprononçable, donc je vais vous laisser le prononcer, ça sera plus simple.
Voilà, mais c'est facile, c'est le Schulbach.
Ah oui, le Schulbach. Alors écrit comme ça, je voyais pas, mais Schulbach, ok.
Voilà, oui, non, vous parlez pas hollandais.
Bah non, j'ai pas fait hollandais. Désolé, hein, Denis. C'est quoi le Schulbach alors, ce jeu hollandais?
Alors, c'est un très vieux jeu. C'est un jeu qui date du 18e siècle.
Ah oui, très vieux.
En Hollande, et avant, il était anglais, hein. Et donc c'est un jeu qui a été ramené par les Hollandais, et ensuite c'est redevenu un jeu national en Hollande depuis les années 70, donc ça fait une cinquantaine d'années.
Mais alors c'est quoi ce jeu, Denis? Vous attirez notre curiosité là.
Voilà.
Attisez, pardon.
Ça s'appelle aussi le billard hollandais, ça vous éclaire un petit peu plus peut-être. C'est une grande planche en bois qui glisse beaucoup, qui mesure 2 mètres de long, qui a 4 portes au bout de 1m60 à peu près, 1m60. Mm-hmm. Les portes sont valorisées de 1 à 4, donc ce qui fait, si on additionne tous le total, ça fait 10 points. Et quand on met un palet derrière chaque porte, au lieu de compter 10, on va compter 20, on multiplie par 2. Donc il y a beaucoup de stratégies pour réussir à faire le maximum de ce que l'on appelle des séries, donc mettre un palet derrière chaque porte.
Et vous parlez de stratégie, c'est pas de l'adresse plutôt, Denis?
Non, parce qu'il y a beaucoup de stratégies. Il faut placer en même temps les palets.
Ah, d'accord.
Mais il y a de l'adresse par la même occasion, parce qu'il faut doser sa force. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est un jeu alors qui est très très bien parce qu'il est multigénérationnel. Un enfant à partir de 5 ans peut jouer. Et j'ai déjà fait jouer une centenaire. C'est ce que disait à notre cher standardiste. J'ai déjà fait jouer une centenaire.
Ouais, donc tout le monde peut participer. Mais c'est un jeu. C'est assez grand comme planche. Donc c'est un jeu qui se joue plutôt dehors, Denis?
Dehors et dedans.
Ouais, dehors et dedans.
Il fait beau parce que c'est du bois, donc le bois n'aime pas beaucoup l'eau. Donc vous venez chez moi, là, je viens de finir, avant que vous m'appeliez, là, je viens de faire quelques parties pour m'entraîner, parce que en même temps, c'est un jeu qui est aussi important pour nous, parce que nous organisons, à côté de Strasbourg, les championnats du monde.
Ah ben voilà, ça c'est intéressant, de Schulbach. Alors c'est l'occasion de parler de tous ces jeux de stratégie et d'adresse en même temps, qui se jouent souvent en extérieur, souvent des jeux de bois, enfin qui font un énorme carton. Il y a le Schulbach, mais il y a le Moltke, ce jeu de quilles aussi qui est très très connu. Enfin, on joue beaucoup dehors aussi, on joue pas qu'à la maison. Hein.
Oui, il y a le billard hollandais, il y a vraiment une multitude de ces grands jeux qui sont des jeux traditionnels qu'on trouve un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai que le nord de l'Europe est très spécialisé dans ces grands jeux. D'ailleurs, on les retrouvait dans les tableaux de Bruegel, hein, ce peintre hollandais. En fait, ces jeux d'adresse sont des jeux tout à fait exceptionnels parce que c'est complètement intergénérationnel, hein, comme vous le disiez, Denis, et en fait, sont des jeux très accessibles. Mmh. Alors, quand on a peur de se lancer dans une partie de jeu, quand on vient avec des amis, eh bien, on commence par les jeux d'adresse qui demandent souvent une petite tactique, parce que c'est vrai qu'il faut arriver à gagner des points quand même. Donc, il faut choisir la position de son palais pour qu'il rentre dans la bonne porte, qui est la plus chère, qui rapporte le plus de points. Voilà. Mais c'est vrai que le jeu d'adresse est quelque chose exceptionnel parce que ce sont des jeux d'ambiance.
Ça met l'ambiance.
On les trouve beaucoup aussi dans tous les festivals et partout et sur les places publiques. Et puis c'est de spectateur, on peut devenir acteur très vite. Hein. On n'est pas obligé de jouer, on regarde les autres et on s'y met très vite.
Et Denis, vous nous avez dit donc que vous organisez les championnats du monde. C'est qui les champions du monde de Schulbach alors?
Devinez.
Les Français?
Les Hollandais.
Ah, les Hollandais. Oh mince. Bah, attendez, ça veut rien dire, hein.
Ah, si, quand même. Non, mais eux, ça fait quand même 50 ans qu'ils s'entraînent, vous voyez.
Oui, c'est sûr. Hein, mais vous savez que le Moltke, qui est ce jeu suédois.
Suédois,
c'est les Bretons, enfin les Français, l'équipe bretonne qui est championne du monde, quand même. Donc ça veut rien dire, vous voyez.
Mais nous espérons. nous espérons dans un mois, puisque c'est dans un mois que nous aurons ces championnats du monde, où il y aura quand même 240 compétiteurs qui vont venir de 12 pays.
Vous êtes dans l'équipe de France, Denis ?
Absolument.
Waouh, la classe !
C'est ma troisième participation. Les deux précédentes, c'est moi qui étais le, entre guillemets, champion de France. Hein, cette année, ça y est, j'ai trouvé des meilleurs que moi et j'en suis content puisque il y a la relève qui est là.
Alors Denis, il commence à nous parler d'un jeu sans nous dire qu'il a été champion de France. C'est dingue ça, quelle modestie en plus. Le Schulbach, mais c'est vraiment génial de pouvoir en parler avec vous. Denis, je compte sur vous pour faire retentir la Marseillaise hein, le mois prochain.
Ben, elle va retentir au moins quand l'équipe va rentrer dans le... dans l'arène.
Ah oui, d'accord. Ah, vous mettez la Marseillaise avant. Moi, oui, c'est pourquoi pas.
Oui, on est sûr qu'elle va.
Comme ça, on est sûr, effectivement. Les championnats du monde de Schulbach, donc le mois prochain, avec l'équipe de France dont vous faites partie, Denis. Merci beaucoup de nous avoir parlé du Schulbach.
Alors, c'est à l'Ampertheim, si vous voulez bien.
Oui. Hein,
pour ceux qui habitent autour de Strasbourg. Voilà. Et que tout le monde peut venir jouer. Nous avons fait, on a prévu une partie open pour tout le monde.
Pour s'initier.
Pour venir jouer.
Merci beaucoup, Denis. On vous embrasse.
Bien.
À bientôt, au revoir. Les jeux de société à la maison ou en extérieur, puisqu'on l'a bien vu là à l'instant avec le Schulbach, c'est le sujet dont se dit tout jusqu'à 22h. Parlez-nous de vos jeux préférés, de votre façon de jouer. On a eu tout à l'heure Fabien qui nous disait que c'était compliqué de jouer avec ses copains parce que c'était très sérieux, on n'avait pas le droit de parler, pas le droit de rigoler. Est-ce que dans votre famille, il y a le mauvais joueur, le tricheur? C'est peut-être vous d'ailleurs. Hein, 0810 055 056, à tout de suite.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Vous avez des souvenirs de jeux de société avec vos parents, vos grands-parents. Dans la famille, il y a toujours eu plein de jeux de société que vous ressortez encore aujourd'hui et qui ont des petits frères ou des petites sœurs de jeux plus modernes, plus rigolos, moins figés. Parce que bon, faire une partie de Monopoly, c'est sympa, mais c'est quand même très très long, un peu statique aussi. Aujourd'hui, on mime, on chante, on danse, on se met debout, on bouge quand on joue. 0810 055 056, venez échanger sur les jeux de société, ceux que vous adorez, ceux avec lesquels vous jouez régulièrement, ceux que vous avez testés récemment. Notre grand témoin, c'est Catherine Watine qui a toujours baigné dans l'univers du jeu, qui en a même fait son métier aujourd'hui, hein, responsable de l'association à l'adresse du jeu. Et nous sommes maintenant avec Anne-Marie à Perpignan. Bonsoir Anne-Marie.
Bonsoir.
On va être vraiment dans la transmission grâce à vous parce que vous travaillez avec des enfants et vous leur faites découvrir les jeux de votre enfance. C'est quoi ces jeux-là ?
Bah écoutez, ce sont les jeux très simples comme le jeu des petits chevaux, le jeu de loi. Il y a aussi les jeux de cartes, il y a aussi les dominos, il y a aussi les cubes où on faisait, qui servaient de puzzle un peu.
Ouais.
Il y avait les jeux de construction, il y avait comment on appelait ça ? Je me souviens plus maintenant avec les osselets, enfin voilà.
Et ça marche bien auprès des jeunes d'aujourd'hui, auprès des enfants ?
Eh bien oui, parce que il faut trouver des jeux, justement, vous parliez du Monopoly, mais nous on essaie de trouver des jeux qui puissent se finir, parce que on n'a pas trop de temps, on fait ça entre midi et deux, une fois qu'ils ont mangé, ou avant de passer à table, et on le fait aussi en classe, je travaille en classe auprès d'enfants handicapés. Donc, c'est très bien parce que en fin de journée, on prend une bonne demi-heure pour c'est un peu la récompense et ça leur plaît parce qu'ils peuvent, comme moi j'ai des enfants en classe entre 6 et 12 ans, ils peuvent jouer ensemble. On peut jouer à tous âges, quoi, parce que selon les jeux, on apprend aussi à compter avec les dés. On apprend aussi avec des dés, par exemple, écrire un chiffre romain. Enfin voilà, donc c'est une récompense et puis on apprend beaucoup de choses sur soi-même et sur les enfants parce qu'il y a celui qui triche, celui qui veut toujours gagner, celui toujours qui veut être le premier.
Celui qui n'est pas content, ouais, bah ouais,
voilà,
c'est normal.
Oui, non mais c'est sûr, il faut accepter qu'on ne gagne pas à chaque fois et que le jeu c'est un partage et c'est vrai que souvent ils sont devant des écrans et là ben moi je suis la première surprise parce que j'ai ramené des jeux de chez moi que je joue avec mes enfants qui ont maintenant plus de 40 ans, les petits-enfants aussi, bon ben voilà. Eh ben, mes petits-enfants, ils ont plus de 15 ans, eh ben, j'ai amené ces jeux à l'école et en plus, ils disent, c'est le jeu à Marie, il faut pas l'abîmer. Hein.
Mais d'où l'importance de garder les jeux, de pas jeter, si on joue plus à un moment donné, enfin, on va forcément ressortir des jeux. Normalement, Catherine, on les ressort peut-être des années plus tard, on se dit, oh là là, rappelle-toi, c'était génial. Et là, on est vraiment dans les jeux classiques avec Anne-Marie. Et qui ont une certaine nostalgie quand on les ressort.
Oui, absolument. Le jeu, c'est le souvenir. Hein. C'est comme un plat qui est un plat familial. C'est le souvenir, ça fait revenir les souvenirs des odeurs, etc. Et c'est la même chose pour le jeu de société. Et Et en fait, chacun retrouve ses émotions. Et en fait, les petits chevaux jeux de loi, c'est des grands principes traditionnels depuis toujours. En fait, petits chevaux, c'est ça vient d'un jeu indien, le Pachisi, qui a été créé en l'an 1000, par exemple. Alors, vous imaginez, ce sont des principes qui ont plu à toutes les générations, dans toutes les civilisations. Donc, c'est des jeux de base. C'est voilà. Et en fait, c'est des jeux, on appelle ça, alors jeu de loi, c'est le jeu de hasard pur qui est formidable parce que ça met tout le monde sur le même pied. Mmh. Hein, c'est ça, c'est le hasard. Donc l'enfant, l'adulte peut jouer, il n'y a pas de problème. Et les petits chevaux, il y a une petite idée supplémentaire, ce qu'on appelle le hasard raisonné, c'est-à-dire qu'il y a un choix. Donc on lance les dés et puis on choisit soit de faire sortir un cheval si on a un 6, soit de faire avancer l'autre. Mmh. Voilà. Mais ce qui est... Anne-Marie parle de la transmission. La transmission, c'est quelque chose de
très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de sortir ses vieux jeux auprès de ces jeunes enfants, il n'y a pas de jugement en disant oui. « Oh, c'est du vieux jeu pour un enfant, un jeu, c'est un jeu ».
Écoutez, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ne peut faire jouer qu'au jeu qu'on aime. Ça, c'est très important. Parce que l'enfant, il sent très vite, si vous faites ça voilà, parce que il faut faire jouer, etc., il n'y aura absolument pas la même ambiance. Si vous sortez un jeu qui vous fait plaisir, qui vous rappelle des souvenirs, ça, vous allez créer une ambiance extraordinaire et vous avez créé une empathie et...
Voilà.
Et ça marche.
Merci Anne-Marie pour votre témoignage et bravo de prendre du temps. Merci de prendre du temps pour les enfants, de jouer avec eux aussi entre midi 2 et après la classe. Anne-Marie était avec nous, Denis aussi, Fabien, Gilles, Betty. Vous aussi venez encore pour quelques minutes témoigner, nous raconter un petit peu quels sont vos jeux de société préférés, quel est votre rapport avec les jeux en général. 0810 055 056, les jeux de votre enfance, de votre adolescence, les jeux d'aujourd'hui. On peut parler des clubs de jeux aussi, peut-être que vous en faites partie. Vous allez dans votre bar de quartier juste à côté de chez vous, où vous savez que vous pouvez emprunter des jeux, découvrir de nouveaux jeux également. Notre grand témoin, c'est Catherine Wattine. Elle est ludologue, elle est également responsable de l'association À l'adresse du jeu. Un petit mot justement sur À l'adresse du jeu. Votre objectif, c'est de faire découvrir le jeu et le jeu pour tous surtout.
C'est ça, absolument. C'est vraiment dans les ludothèques, c'est des lieux de rencontres intergénérationnelles et pour tous. C'est-à-dire que c'est vrai que en général, il y a des adhésions mais qui sont vraiment pas ruineuses du tout. Vous pouvez adhérer à l'année ou alors pour l'après-midi, vous payez 2 €, vous venez en famille et ce qui est formidable, c'est que les ludothécaires ont appris les règles et vous les transmettent oralement. Et en général, vous repartez avec un jeu sous le bras parce que vous pouvez les emprunter. Et puis, vous pouvez rencontrer aussi d'autres joueurs. Parce que souvent, en famille, on n'a pas...
Tout le monde n'aime pas la même chose.
Tout le monde n'aime pas la même chose. Et donc, vous allez en famille dans une ludothèque et vous vous trouvez avec d'autres partenaires de jeu. Et tout le monde a vécu un moment sympathique, agréable. Et puis, voilà. Et c'est comme ça que cette transmission orale est indispensable.
0810, 055, 056, on parle des jeux de société. Dans un instant, ça va vous faire plaisir, Catherine, parce que nous serons avec Cathy qui va nous parler d'un jeu qui s'appelle Dixit, que vous adorez aussi.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Jouer ensemble permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre avec qui on vit aussi. C'est amusant, c'est divertissant quand on n'y met pas trop de pression ni de rivalité. Mais parfois, il y a aussi dans nos familles de très mauvais joueurs, de mauvais perdants. Est-ce que vous avez déjà dû arrêter une partie de jeu de société qui tournait au vinaigre? Ce soir, on parle des jeux, bien sûr, les jeux que vous adorez, vos jeux préférés, mais également de comment on y joue, ce que ça révèle sur les joueurs. 0810 055 056 pour nous rejoindre sur France Bleu dans cette grande partie de jeu jusqu'à 22h. Et nous sommes maintenant chez Cathy dans la Creuse. Bonsoir Cathy.
Oui, bonsoir Vanessa, bonsoir tout le monde.
Alors je disais que vous allez faire très plaisir à notre grand témoin Catherine Wattine, oui. Parce que vous allez nous parler d'un jeu qu'elle adore aussi, c'est le jeu Dixit.
C'est ça.
Faut nous expliquer.
C'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, et en fait c'est des cartes qui ont une illustration que je trouve ahurissante, très 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 jolie, enfin je ne sais pas comment le décrire, déjà rien que pour avoir les illustrations, on achèterait le jeu sans y jouer, tellement le jeu est beau. Et en fait, vous avez des cartes Il faut jouer à plusieurs, évidemment, c'est mieux. Mais par contre, alors vous, il faut donner un thème. Vous, dans vos cartes, vous choisissez un thème, mettons, je sais pas moi, le chocolat. Vous lancez le mot chocolat et chaque joueur doit choisir dans son jeu une carte qui lui fait penser au chocolat. Une fois que toutes les cartes sont revenues dans votre main, vous les mélangez, vous les posez sur la table et chacun doit retrouver votre carte. Mais il faut pas être trop, comment dire, direct, de façon à ce que les autres joueurs ne trouvent pas tous votre carte, sinon vous prenez
faut
pas.
Faut que ce soit un peu subtil, alors.
Voilà.
Donc, ça peut être quoi, par exemple, la carte qui fait penser au chocolat, mais qui n'est pas une carte de chocolat? Ça va être quoi?
Ben, en fait, c'est difficile à expliquer parce qu'il faut voir le graphisme.
Genre quelqu'un qui se lèche les babines, ça pourrait marcher? C'est la gourmandise ou...
Ouais, voilà, la gourmandise. Après, il y a une carte, j'ai en tête là, c'est une cage avec un personnage dedans. Donc ça peut être l'enfermement, la prison, la liberté. Et en fait, à chaque fois que vous donnez une idée, autant de parties vous pouvez faire avec les mêmes cartes ou les mêmes joueurs, et autant le jeu s'y prête, quoi. Et en fait, je trouve ce jeu déjà fantastique parce que quel que soit le mot ou le sentiment ou le cri, après, vous pouvez faire une chanson. Enfin, il y a plein de subtilités pour faire deviner la carte. Et en fait, chacun arrive à faire imaginer l'autre quelque chose. Et à la fin, quand il reste plus, mettons, vous jouez à 5, il reste que 5 cartes. Là, forcément, si vous lancez le mot liberté, comme par hasard, les 5 cartes peuvent faire penser au mot liberté. Et je trouve que ce jeu, il est fantastique dans ce sens-là aussi, parce que non seulement il est beau à jouer, mais à force d'y jouer, on peut pas. Il est inusable. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Il est sans fin ce jeu. À chaque fois, ça tombe juste, quoi.
Catherine Watine, vous qui l'adorez aussi, vous êtes d'accord avec tout ce qu'a dit Cathy sur le jeu Dixit?
Oui. Il y a juste la manière. Moi, j'appelle la personne qui décrit la carte, je l'appelle le conteur ou la conteuse. Et alors, c'est vrai que ça peut être un mot, mais ça peut être aussi une petite histoire. Voilà, un personnage.
Pourquoi il est si génial que ça, ce jeu? C'est parce qu'il est subtil, c'est ça?
Il est très subtil et puis il fait appel à l'imaginaire de chacun. Et comme le disait justement Cathy, on découvre aussi les autres et on découvre leur accès à l'imaginaire. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que quand on va émettre une idée sur une carte, les autres vont essayer d'être le plus proche de cette idée-là. Mais on va voir que pour certains, les symboles ne vont pas tout à fait avoir les mêmes sens aussi.
C'est selon notre vécu, selon notre imagination, vous le disiez.
Voilà, selon vécu, imagination.
Et vous l'avez découvert comment, Cathy, ce jeu? Parce que vous dites que vous l'avez découvert récemment, mais où, par qui?
Parce qu'en fait, moi, j'ai une fille, une grande adolescente, en fait, qui travaillait au départ dans une école, hein, qui faisait de l'animation auprès des enfants et qui, en fait, a testé plein de jeux. Et du coup, qui nous fait découvrir plein de jeux. Et nous, on est quand même au niveau familial. Je pense que c'est dans notre éducation. On a toujours joué. Moi, j'ai toujours joué quand j'étais petite. En Creuse, on n'a pas franchement... c'est un peu paumé, hein, des fois. Donc, par le jeu, on peut rencontrer des gens. On peut passer du temps convivial avec plein de monde et rencontrer plein de gens autour du jeu, autour des jeux. Je pense aux soirées tarot, soirées cartes, aux soirées...
Soirée Dixit maintenant alors?
Maintenant il y a le Dixit, après il y a... Il y a la bacade. Alors la bacade, c'est purement Limousin, je sais pas si tout le monde connaît. C'est un jeu avec des cochons. Et il faut faire des... C'est comme un jeu de cette famille, sauf que quand vous faites la bacane, quand vous lancez le mot bacane, en fait, c'était la soupe qu'on donnait aux cochons à l'époque. Et ça mélange tout le jeu. Donc vous redémarrez à zéro. Et alors là, aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes, vous pouvez y passer des soirées mémorables.
Il y a des régions avec des jeux bien spécifiques, justement, Catherine, où on se dit ce jeu-là, il parle de la région, il parle de son histoire. Et on n'y joue que dans ce coin-là.
Par exemple, ce jeu Bacade, il a été créé par un agriculteur. Voilà, de la région d'ailleurs, je crois. Et non, maintenant, le jeu s'internationalise quand même pas mal, parce que avec Internet, avec les festivals, les jeux circulent en fait.
Il n'y a pas de jeux régionaux très anciens qui sont restés dans leur région.
Alors il y a des jeux régionaux. Si. Par exemple, tous les jeux d'adresse, il y a des jeux d'adresse régionaux. Hein. Par exemple, on joue à la boule de fort en Anjou. C'est une sorte de pétanque, mais très très différente, hein, avec un terrain de jeu différent. Mais c'est un jeu de boules. Mmh. Il y a des jeux en Bretagne.
Et la boule bretonne, bien sûr.
Voilà. Et donc si, il y a des jeux encore traditionnels par les régions, mais c'est vrai que grâce à ces festivals, chacun, celui qui organise un festival dans sa région, va aller chercher des jeux d'ailleurs pour faire découvrir justement autre
c'est
chose.
C'est ça le but.
Il y a
oui.
ça, il y a vraiment cette recherche de découverte. Et puis je voudrais dire donc à Cathy qu'en fait, Dixit, il a eu l'As d'or il y a quelques années. Donc c'est
au festival du jeu,
au festival du jeu de Cannes, et que voilà, on est très heureux parce que ces prix donnés, je vois que ils s'installent dans la durée.
Merci beaucoup Cathy d'être venue nous parler de ce jeu Dixit. Donc deux personnes qui disent que c'est top, ça vaut le coup peut-être d'essayer. Allez, dès demain, on va l'acheter ou dès ce week-end. Les jeux de société, on en parle jusqu'à 22h avec vous sur France Bleu au 0810 055 056. On va parler dans un instant du jeu La Guerre des Moutons. C'est quoi La Guerre des Moutons? C'est Marie-Françoise à Amiens qui va tout nous dire.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Les jeux de société, on en parle ce soir. Le jeu de société qui reste la star incontestée dans les familles. Pour 79% des familles, on a des jeux de société, c'est important. Et surtout, on n'oublie pas les jeux de quand on était petit. On les partage encore avec nos enfants aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas de tester de nouveaux jeux. On l'a bien vu aussi depuis le début de cette émission. Parlez-nous de vos jeux préférés, des jeux que vous adorez, de votre façon de jouer aussi, en compagnie de notre grand témoin ce soir, Catherine Watine, ludologue et responsable de l'association À l'adresse du jeu. Et Marie-Françoise va nous parler donc de La Guerre des Moutons. Bonsoir Marie-Françoise.
Bonsoir, oui. Je parlais de La Guerre des Moutons et si je peux, j'aimerais aussi parler d'un détournement du jeu de loi qu'on peut faire à l'extérieur et de aussi, si c'était possible, de savoir ce qu'on entend par vraiment par jeu de société, parce que moi j'ai souvent joué avec d'autres à un jeu qu'on appelait les 24 heures du Mans, parce qu'on faisait un circuit automobile, quoi, un circuit quoi, comme ça fermé.
Ah oui, des petites voitures.
Non, avec un stylo sur une feuille de papier avec des petits carreaux. Et quand on avançait sur un point, et là on avait le droit de reposer la fois d'après la même direction, le même nombre de carreaux, mais en prenant aussi tous les 8 points autour.
Ce qui ah oui, alors est-ce que, et vous vous demandez si c'est un jeu de société, c'est ça Marie-Françoise?
Voilà, parce que aussi, on pouvait aller trop vite et faire des sorties de route, et c'était tout simple.
Alors Catherine Watine, est-ce que c'est un jeu de société?
Mais oui, écoutez, je ne sais pas, j'ai quelques décennies maintenant et du coup la bataille navale, je l'ai jouée avec papier crayon, le pendu avec papier crayon avant de trouver ces jeux en boîte. Donc évidemment, ce sont des jeux de société. C'est un jeu qui se partage à plusieurs, quoi. C'est un jeu qui se partage à plusieurs avec une règle définie au départ par tous les joueurs, c'est-à-dire
dans un but de s'amuser.
Ouais.
Alors Marie-Françoise, parlez-nous de La Guerre des Moutons. C'est quoi ce jeu alors?
Alors La Guerre des Moutons, c'est un jeu que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années à peu près, et c'est un jeu où on distribue à chaque joueur une série de petits morceaux de cartes qu'on assemble un peu sous forme de puzzle, si vous voulez. Il faut que les contours correspondent. Et le but consiste à essayer d'enfermer un certain nombre de moutons dans un enclos bien fermé. Mais les autres essayent bien sûr d'empêcher de fermer l'enclos.
En mettant d'autres cartes.
Il y a des villages, il y a des forêts, il y a des chasseurs, il y a des loups. Alors ça met du suspense, tout ça. Et je trouve que ce jeu est vraiment très intéressant parce que c'est pas du tout, ça ressemble pas à un jeu de dames. Mais c'est comme pour le jeu de dames. On peut aussi bien jouer avec des gamins qui démarrent et qui jouent comme ils peuvent sans grande stratégie. Ou alors au contraire avec des gens qui vont beaucoup réfléchir, penser à des coups à l'avance. Et ça peut être passionnant. Quoi.
Et Marie-Françoise, c'est un jeu que vous connaissez bien aussi, vous, Catherine Watine. C'est un jeu joli. C'est un jeu qui a quelque chose.
Oui, non, c'est
assez...
un petit jeu. Non, mais c'est surtout un jeu assez simple. C'est un jeu de positionnement de tuiles. Et bah, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu de Philippe Despalières, le co-auteur de Loup-garou.
Ah, le fameux jeu Loup-garou. Donc, on n'a pas eu d'écho ce soir, mais on sait que c'est un jeu qui marche très très bien. Marie-Françoise, merci de nous avoir appelés. On vous embrasse très très fort et on va accueillir tout de suite Evelyne dans le Nord. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir.
Alors vous allez nous dire que les enfants ne jouent pas aux jeux vidéo chez vous. Comment vous faites ?
Je suis toujours un peu surprise. J'ai pas dit qu'ils jouaient pas du tout. Mais en fait, moi j'ai 4 enfants. L'aîné a 33 ans, 29, 25 et puis mon dernier a 20 ans. Et c'est peut-être plus encore le dernier, ce qui est surprenant d'ailleurs, parce que bon, étudiant, je me dis bon, il lâche les jeux, tout ça. Entre eux, je pense qu'ils ont tellement l'ordinateur pour travailler, leurs cours et compagnie, que c'est peut-être ça qui fait qu'ils jouent un peu plus aux jeux de plateau quand ils se retrouvent à la maison.
Mais vous avez beaucoup joué avec eux quand ils étaient petits ?
Oh oui.
Ah bah ouais, bah voilà.
Je pense que je suis une joueuse invétérée. Ça serait vilain de dire que dans le Nord, il ne fait jamais soleil. Mais donc, les belles soirées d'hiver, je pense que de temps en temps, c'est pas mal de jouer. Ou les week-ends, donc quand il fait vraiment trop moche, eh ben, c'est toujours un plaisir de sortir un jeu. Je pense que quand ils étaient petits, on est passé par les fameux jeux de loi dont on a parlé tout à l'heure. Le nain jaune, les jeux de cartes et compagnie. Et là, moi, je découvre un univers du jeu avec mes grands. Parce qu'en fait, ils jouent sur des jeux de plateau. C'est des jeux de plateau. Bon, nous, on aurait dit Monopoly, c'est un grand jeu de plateau, ça peut durer des heures. En fait, leur partie de jeu, très souvent, c'est quoi, 15-20 minutes.
Ouais, c'est assez court, ça permet de pas s'ennuyer, de éventuellement changer de jeu derrière.
Voilà.
Bon, et donc, vous avez testé plein de nouveaux jeux avec vos fistons, alors
comme type de jeu. Souvent, c'est des petites boîtes qui contiennent soit des cartes avec des personnages. Comme disait tout à l'heure la dame, il y a souvent des graphismes super beaux. Il faut se pencher sur ces cartes. Il y a des choses très très drôles avec des épreuves, avec vous avez des gages, vous avez parfois il y a des dés, parfois il n'y a pas de dés. Vous devez faire un parcours, vous devez déplacer des cartes. C'est vraiment un univers que je découvre.
Et quand vos enfants ne sont pas là, Evelyne, est-ce que vous jouez quand même, vous aussi, toute seule ou avec des amis ?
Moi, je joue beaucoup parce qu'en fait, je suis une scrabbleuse.
Ah bah ouais, forcément, on n'a pas parlé du Scrabble. C'est fou parce que c'est peut-être le jeu le plus...
des jeux qui semblent être, comment je vais dire, pour ringard, parce que c'est des jeux de lettres. Et en fait, je découvre, dans l'heure là actuellement... On a, comme un peu dans certaines autres régions, je dis pas ça, mais on a des tournois de Scrabble scolaires. C'est-à-dire qu'il y a des écoles où ils acceptent de prendre un petit peu de temps pour apprendre aux enfants à jouer au Scrabble. Et quand on y pense au niveau de la construction de la personne, c'est super intéressant.
Oui, puis ça permet d'apprendre des nouveaux mots aussi pour les enfants. Le Scrabble ou le Scrabble, hein, ça dépend comment on le prononce, Catherine Watine, il cartonne toujours autant. Il y a les clubs, il y a les groupes, et puis toutes les générations y jouent.
Absolument. Le Scrabble est toujours d'actualité et il se joue partout, encore partout. Et je peux dire dans toutes les familles, il y a encore un Scrabble quelque part. Et puis, il y a des tournois qui se développent vraiment partout en France. Et ça reste le jeu de lettres référent. C'est-à-dire que les jeux de lettres sont... n'arrive pas, les jeux de lettres qui sont créés actuellement n'arrivent pas à résister au Scrabble.
C'est la star un peu des jeux de société. Evelyne, merci beaucoup d'être venue témoigner ce soir et puis bravo pour avoir éduqué vos enfants aux jeux de société. Des enfants qui jouent petits sont des adultes qui jouent ensuite.
Oui, c'est ça. C'est vraiment, on voit très bien les joueurs qu'on rencontre, enfin les personnes qu'on rencontre qui nous disent que ne pas être joueur, etc. C'est que il n'y a pas eu de transmission. Donc c'est à nous, et là, c'est à nous à trouver le jeu qui va les inciter à devenir joueurs. Et en fait, Evelyne parlait de ces petits jeux assez rapides, parce que des parties de 10-20 minutes, c'est des jeux rapides, ils s'en développent énormément. Et ça permet franchement de les proposer à tout le monde.
Merci beaucoup Evelyne d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. On vous embrasse.